Alors, nous sommes donc le 31 mai 2021 à l'Institut de virologie de Strasbourg en compagnie de Samira Fafi-Kremer. Alors, vous avez beaucoup de titres, de fonctions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Samira Fafi-Kremer. Je suis directrice de l'Institut de virologie du CHU de Strasbourg. Et j'enseigne à la faculté de médecine et je suis également chercheur à l'INSERM.
Et donc c'est vous qui êtes chargé de sauver le monde ou bien ?
Pas du tout. je suis virologue je travaille dans une discipline qui est de plus en plus connue alors qu'elle était complètement inconnue auparavant.
Alors, mais justement, c'est quoi un virus ? Alors, c'est sans doute compliqué, mais tout le monde se pose la question, c'est quoi un virus ?
Alors, c'est quoi un virus ? Je dirais que c'est, pour le décrire très simplement, c'est un petit organisme qui ne peut pas vivre tout seul à l'extérieur. Il a absolument besoin de nos cellules, ou des cellules d'un autre être vivant, pour se multiplier et survivre. Et donc, c'est pour ça qu'il va essayer d'infecter les êtres humains, les animaux, etc. Et grâce aux constituants de nos cellules, toute la machinerie de nos cellules, il va pouvoir se multiplier, avoir des petits et survivre.
Et c'est quoi la différence ou la ressemblance avec un microbe ? C'est la même chose ? C'est autre chose ?
Alors, c'est quoi la différence avec un microbe ? En fait, un virus, on peut dire que dans les microbes, il y a les virus, les bactéries, certains champignons. Et c'est un mot général. Mais en fait, si on compare un virus à une bactérie, par exemple, c'est la différence, c'est la taille d'abord. Et les virus, on ne peut pas les voir comme ça au microscope comme on peut voir une bactérie. Et le virus, surtout, souvent, il dépend entièrement de nos cellules.
Donc, c'est un parasite, un virus ?
En fait, on peut dire que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. C'est-à-dire que, pour vivre, il a besoin de parasiter une cellule. On peut le décrire comme ça.
Et vous avez cité la bactérie. La bactérie, c'est juste par curiosité, hein, bien sûr. Mais c'est quoi une bactérie ?
Une bactérie, c'est aussi un petit organisme, un micro-organisme, qui, lui, alors, il est souvent, les bactéries qu'on connaît sont de plus grande taille. On peut plus facilement les voir au microscope. Et alors, comment les décrire pour les différencier d'un virus ? Eh bien, comme ça, c'est difficile. Je vous aurais fait un dessin. Ça aurait été simple. Comment on peut décrire une bactérie ?
À l'arrivée, une bactérie, peut-être qu'elle se transforme en être humain au bout de quelques milliards d'années, alors que le virus, lui, il aura plus de mal.
Non, je dirais pas ça. Non, non. Une bactérie, ben c'est... comment on peut dire ? Très bonne question.
Il y en a dans les yaourts ?
Oui, par exemple, la bactérie, on peut plus facilement la trouver à l'extérieur de l'organisme. On peut en trouver dans l'organisme, dans les fromages, par exemple. Et elle peut se multiplier, se répliquer. Alors qu'un virus, il est obligatoirement dans un organisme à l'intérieur.
Il est à l'intérieur d'un organisme, mais alors pourquoi on se protège des objets qui pourraient transporter le Covid ?
Alors ça, c'est pendant une très très courte durée. Un virus, donc, comme je vous ai dit, il doit obligatoirement être dans une cellule, dans un organisme. Mais pour la transmission, il peut, par exemple, s'il y a une grosse quantité de virus, il peut être dans les sécrétions, par exemple salivaires ou nasales. Et si vous êtes à proximité de quelqu'un, donc il peut encore juste avoir le temps de passer chez quelqu'un d'autre. Mais on sait qu'un virus ne peut pas résister longtemps sur une surface inerte parce qu'il est sensible à la sécheresse, il est sensible aux UV, au soleil. Alors ça, c'est d'autant plus que, je vais vous parler maintenant de manière un peu plus sophistiquée, c'est que dans les virus, il y a des virus qui sont enveloppés, Ils ont une sorte d'enveloppe avec une forme des lipides autour, et puis des virus qui ne sont pas enveloppés, comme le virus responsable des gastroentérites, etc. Alors pourquoi cette précision ? Parce qu'un virus enveloppé, c'est un virus fragile. C'est le cas du Covid. Il ne peut pas passer dans le suc gastrique, on ne peut pas l'avaler comme ça. Il ne peut pas rester longtemps sur une surface inerte, alors que des virus comme ceux de la gastroentérite responsable de diarrhée, par exemple, ceux-là, ils n'ont pas d'enveloppe, donc ils peuvent rester un peu plus longtemps sur une surface. Mais ils ne se multiplient pas. Ils sont là et vous pouvez vous infecter plus facilement à ce moment-là avec ce genre de virus, contrairement à un virus enveloppé.
Et est-ce que le virus est la plus petite forme de vie sur Terre ou il y a encore plus petit ?
Alors, les virus, je dirais, les organismes qui sont responsables d'infection, c'est ça, vous voulez dire ? Les virus, ce sont ceux qui sont de la plus petite taille. Oui, on peut dire ça.
D'accord. Et est-ce que la plupart des virus sont gentils ?
Alors, la plupart des virus sont gentils, bonne question. Moi, je dirais que il y a beaucoup de virus qui savent vivre en harmonie avec l'être humain. Puisqu'il y a des virus où on peut s'infecter avec dès le plus jeune âge, et il reste dans notre organisme, il y a une sorte d'équilibre. Il y a le virus qui ne fait rien, il est tranquille. Il sort que quand on est fatigué, on est malade. C'est comme celui de l'herpès, vous savez, le bouton de fièvre. C'est un virus qui est responsable de cette maladie. Eh bien, c'est un virus qui est tout le temps dans notre organisme. Il y a un équilibre avec notre réponse immunitaire et avec l'organisme lui-même. Quand on est fatigué, il ressort. Bah, lui, son objectif d'un virus, c'est survivre, se multiplier, infecter le maximum de personnes. Lui, il aimerait bien ne pas faire du mal, parce qu'il sait que s'il fait du mal, c'est là où il va être éliminé plus rapidement. Donc plus il est gentil, on va dire, plus il est supporté par l'organisme et plus il va persister très longtemps.
Mais alors le virus du Covid serait plus bête que celui de l'herpès ? Parce que la personne meurt, il est un peu mal le virus, puisque c'est un parasite qui a besoin d'un corps humain pour exister. Donc, il ne participe pas à son suicide en tuant la personne ?
Alors, déjà, ce sont deux virus très différents. Le virus de l'herpès, c'est déjà dans ses gènes, il a des protéines qui lui permettent de rester calme, que notre réponse immunitaire ne le voit pas, ce que n'a pas le Covid. Par contre, je peux faire la comparaison entre le Covid et le SARS-CoV. Vous vous souvenez ? Le cousin du Covid qui est apparu en 2003, je crois. Le SARS-CoV, il a disparu actuellement. Pourquoi ? On pense que c'est principalement parce qu'il était très méchant et qu'il tuait la personne très rapidement dès qu'il l'a infecté. Le Covid, je dirais même qu'il est plus malin parce qu'à la fois, donc il y a des personnes qui sont complètement asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, qui ne font rien. Donc il peut se répliquer tranquillement, il peut se transmettre tranquillement, de manière vraiment très optimisée. Mais on dirait que c'est presque un accident de vie pour le Covid. Quand il infecte des personnes âgées, eh bien, il va entraîner une réponse immunitaire tellement forte que des fois ça peut être délétère et pour lui et pour la personne qu'il infecte.
Mais un virus comme le Covid se reproduit, il y a des mâles, des femelles, comment il fait ?
Non, alors... Est-ce que le virus se reproduit ? Est-ce qu'il y a des mâles et des femelles ? Je dirais que non. Un virus, ça n'a pas de sexe. Un virus, c'est vraiment très simple. C'est un génome, c'est-à-dire le génome, c'est quoi ? C'est de la partie, c'est des molécules qui contiennent l'information génétique du virus. Et puis, il y a des protéines qui protègent cette information génétique. Puis voilà. Et là, pour le Covid, il y a l'enveloppe. C'est vraiment, je dirais, à la fois simple, si on compare à l'être humain, mais en même temps sophistiqué, parce qu'il arrive quand même à faire pas mal de choses. Et donc, un virus, il se réplique. En fait, c'est lui-même, il va se multiplier en plusieurs... moi je dis qu'il va donner des enfants, mais en fait, il lui ressemble. Il y a des petites mutations de temps en temps pendant la multiplication du virus, mais sinon, il n'y a ni mâle ni femelle.
Mais c'est magique, ça. On prend un virus et hop, tout d'un coup, il se multiplie en plein d'exemplaires. C'est la vie instantanée.
Ah oui, complètement. Il est si là, il faut, donc je répète, est-ce que le virus, est-ce qu'il peut se multiplier de manière instantanée? Je répète qu'il a besoin de cellules. C'est grâce à nos cellules qui lui prêtent, enfin, où lui, il va voler la machinerie de nos cellules et il va se multiplier des millions de fois parfois. Et ça dépend des virus. Il y a des virus qui se multiplient doucement, d'autres plus rapidement.
Et alors, le Covid est en tête du hit parade des virus les plus connus, aujourd'hui évidemment, mais quels sont les virus les plus connus en dehors de ce Covid?
Alors, quels sont les virus les plus connus en dehors de ce Covid? Je dirais que avant que le Covid fasse la publicité de la virologie, les seuls virus que les gens entendent en parler, c'était le VIH, le virus du sida, et les virus des hépatites. Vraiment, c'est les seuls, alors qu'il y en a énormément, des virus. Il faut dire que déjà la planète est pleine, je crois qu'il y a plus de virus qu'autre chose. Et puis les virus qui sont responsables de maladies, il y en a aussi au moins une vingtaine dont on ne parle pas. C'est, il n'y a que bon, les gens qui font de la virologie. Et c'est vrai que maintenant, le Covid, c'est presque, c'est paradoxal, mais c'est bien pour nous la virologie parce qu'il fait connaître les maladies virales.
Et est-ce que tous les virus sont contagieux?
Est-ce que tous les virus sont contagieux? Alors ça dépend. Ça dépend si ce sont des virus qui se transmettent par le sang uniquement, ou par la salive, ou par la voie respiratoire. Si je prends l'exemple du virus du VIH, lui, si vous êtes devant un patient, une personne qui a le VIH, et bien vous pouvez lui parler pendant 10 ans, enfin pendant des heures, c'est pas, vous n'allez pas être infecté. Pourquoi? Parce que ce virus, il se transmet par le sang ou par les sécrétions sexuelles. En revanche, si c'est un virus respiratoire, ben là, quand vous parlez, ben comme il est présent dans les voies respiratoires, donc forcément, ben il peut être plus contagieux à ce moment-là.
Et on a compté le nombre d'espèces, de genres de virus qui existent sur Terre? Est-ce que ça fait partie des missions d'un institut de virologie?
Alors, est-ce qu'on a compté les virus sur Terre? C'est impossible. Il y a eu une estimation par des modèles mathématiques. Apparemment, il y a des milliards et des milliards de virus qu'on ne connaît pas. Donc nous, à l'Institut de virologie, en fait, notre mission, c'est surtout de connaître et d'explorer les virus qui sont responsables de maladies chez l'homme. Donc c'est vrai que ces dernières années, on en découvre de plus en plus, pas nous, mais je veux dire la discipline de virologie découvre de plus en plus de maladies virales qui sont pathogènes chez l'homme, justement parce qu'il y a un transfert souvent des chauves-souris ou des animaux qui, alors, avant, n'avaient pas de contact avec l'homme. Et maintenant, avec le changement, il y a aussi le réchauffement climatique, il y a la destruction des habitats de ces animaux. Il y a plus de contact avec l'homme. Et c'est là où des virus qui étaient que chez les animaux, contenus chez les animaux, quand ils se transmettent chez l'homme, et c'est là où on peut avoir des maladies, ce qu'on appelle des maladies émergentes, comme ce qui se passe avec le Covid, par exemple.
Et est-ce que tout vient de Chine? Enfin, pourquoi tant de virus viennent de Chine? Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs?
Attendez, je réfléchis. Les coronavirus, c'est vrai. Les deux sur trois pathogènes viennent de Chine. Alors, on pense que ces coronavirus qui sont pathogènes, ils viennent de la chauve-souris. En Chine, vous savez qu'ils consomment beaucoup les chauves-souris, ils manipulent beaucoup les chauves-souris, et donc forcément, il faut savoir que la chauve-souris, c'est un animal qui est extraordinaire d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'héberger un nombre incalculable de virus sans être malade. Et donc c'est comme ça que des fois il peut y avoir une transmission chez l'homme. Mais maintenant je réfléchis en même temps, il y a d'autres virus comme Ebola, il n'est pas venu de Chine. Il est venu, le VIH non plus d'ailleurs. Ils sont venus plutôt d'Afrique ou d'Afrique centrale. Et là, c'était plutôt des singes qui étaient plus en contact avec l'homme et qui ont transmis le virus.
Et donc là, par exemple, vous avez une collection de chauves-souris à Strasbourg ?
Alors, est-ce qu'on a une collection de chauves-souris à Strasbourg ? Non, parce qu'il faut savoir que, donc déjà la chauve-souris, on peut pas avoir des animaux comme ça dans un laboratoire. Il faut une animalerie, c'est ce que ça s'appelle une animalerie, c'est-à-dire un endroit spécifique qui est très bien cadré, où vous manipulez avec des précautions réglementaires et vous devez avoir une autorisation. Donc ici, dans tout le bâtiment, il n'y a pas de chauve-souris. On a une animalerie, mais pas chez nous exactement, chez nos collègues à côté, où il y a des petits animaux. À l'époque, c'était dans les années 80-90, il y avait même des chimpanzés. C'était au début du sida, ici des animaleries. Mais il faut savoir qu'il y a de moins en moins, je pense, de manipulations sur les animaux. Et on ne peut pas avoir un laboratoire comme ça où on peut manipuler des animaux.
D'accord. Et donc, le pangolin serait totalement innocent dans cette histoire de coronavirus ? Alors qu'il a été accusé.
Oui. Alors, est-ce que le pangolin est innocent ? C'est vrai qu'il a été accusé. Pourquoi ? Parce que au moment où il y a eu le début de pandémie du Covid, c'était juste un an ou quelques mois avant, il y avait justement une étude qui montrait que des pangolins en Asie mouraient de façon importante par un coronavirus. Et des chercheurs avaient comparé ce coronavirus avec le coronavirus actuel, mais c'était au tout début, ils ont vu qu'il y avait une forte ressemblance. C'est pour ça qu'au début, ils ont dit, ça y est, le pangolin, c'est un animal qui est consommé en Asie, souvent de manière cachée, parce que c'est pas autorisé. Ils ont dit que c'est peut-être le passage du virus du pangolin vers l'homme. Sauf qu'après, quand on a séquencé quand on a analysé le génome, le matériel génétique du coronavirus, on s'est rendu compte qu'il y a une partie qui est spécifique du coronavirus et qui est très importante. Et c'est elle qui fait qu'il est très transmissible et n'existe pas dans le coronavirus du pangolin. Et c'est pour ça qu'il a été n'était plus coupable. Maintenant, c'est peut-être autre chose.
Alors, dans la même série des innocents, on parle des animaux pour la transmission de virus vers l'homme, mais est-ce que les plantes ont un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce qu'elles peuvent être contagieuses ? Est-ce qu'elles peuvent transmettre des virus ? Ou non, c'est tranquille, les plantes, on peut les manger autant qu'on veut ?
Très bonne question. Alors, les plantes, est-ce que les plantes peuvent aussi transmettre le virus ? Alors, en tout cas, pas ceux-là qui sont actuellement infectieux chez l'homme. Il y a, les plantes ont également leur virus qui peuvent les tuer, ou vous savez, dans l'agriculture, ça peut aussi atteindre, abîmer l'agriculture. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de virus qui serait transmis par les plantes, à ma connaissance.
Alors, on va passer dans la case maladie. Hein. Est-ce que toutes les maladies viennent d'un virus
Non, justement. Est-ce que toutes les maladies viennent d'un virus Non. On peut être malade aussi bien d'un virus, aussi bien d'une bactérie, aussi bien d'un parasite, d'un champignon, d'un cancer. Donc non, le virus fait partie des agents pathogènes qui entraînent une maladie chez l'homme.
Alors, vous avez cité le VIH, donc le sida, comme provenant d'un virus, mais est-ce que des maladies aussi connues que la peste, le choléra, la syphilis, par exemple, c'est des virus, tout ça, ou pas ?
Ah ben justement, ce sont des bactéries qui sont responsables et de la peste, et de choléra, et de la syphilis. Donc là, vous citez trois bactéries différentes. C'est vraiment très différent du virus. C'est un microbe aussi, mais c'est une bactérie.
Dans la foulée bactérie versus virus, la transmission, la contagion d'une bactérie, c'est de la même façon qu'un virus ? Ça se propage à travers les êtres humains ?
Alors, c'est pas les bactéries, je dirais que c'est encore un peu différent. Je suis en train de réfléchir souvent, parce que les bactéries, si vous voulez, on les a, il y a beaucoup de bactéries qui vivent avec nous et qui sont très important pour notre santé. Et là, par exemple, sur votre peau, vous avez énormément de bactéries. Et ce qu'il y a, c'est que tant qu'il n'y a pas d'ouverture, tant que votre corps est intègre, votre peau est intègre, ça va, vous allez bien. Si jamais cette bactérie, vous avez une ouverture, par exemple, et qu'elle a la possibilité de rentrer à l'intérieur, dans le sang, etc., et c'est là, si elle se multiplie, c'est là où elle peut être responsable de maladies. Donc ça, je parle, par exemple, juste pour la bactérie des staphylocoques, qui sont des bactéries très simples. Là, vous en avez un peu sur votre peau, j'en ai aussi. C'est pour ça d'ailleurs on désinfecte à chaque fois quand on veut faire une injection ou quoi que ce soit. Et la bactérie comme le choléra, alors ça peut se transmettre par contre par quand vous mangez des aliments qui sont mal lavés, qui ont été souillés par des sels qui contenaient cette bactérie. Et la syphilis, ça se transmet par voie sexuelle. Donc c'est un dans les transmissions, c'est aussi un peu variable, mais ça reste quand même des microbes très différents.
Et l'élevage industriel a amené aussi quelques maladies chez les animaux, comme la vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que c'est des virus, tout ça, qui peuvent contaminer les animaux ?
Alors, c'est bien de vous avez parlé de ça. La vache folle, c'est encore autre chose. Ce n'est ni une bactérie, ni un virus. En fait, c'est une sorte de protéine c'est une protéine pathogène. On ne sait pas exactement comment la définir, mais en tout cas, c'est ni l'un ni l'autre. Par contre, la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Alors, ceux-là, ce sont des virus. Dès qu'on parle de grippe, c'est le virus de la grippe. Sauf qu'il est différent. La grippe aviaire, c'est comme son nom l'indique, c'est un virus de la grippe venant des oiseaux aviaires. Porcine, c'est celle qui va infecter les porcs. Le problème du virus de la grippe, c'est que ces différents virus, ils peuvent se recombiner, se mélanger entre eux et donner un nouveau virus qui peut être très pathogène, notamment chez l'homme. Alors, d'où viennent ces maladies de grippe aviaire et grippe porcine ? Alors, souvent, donc c'est vrai que le mode d'élevage, mais aussi, il faut savoir que quand ça peut être des oiseaux sauvages qui comportent le virus et qui peuvent le transmettre aux canards, enfin aux oiseaux, volailles d'élevage, ouais.
Donc après avoir été infecté, on va essayer maintenant de s'en sortir. Hein. Et donc, déjà un vaccin, par exemple, c'est quoi ? Il y en a plusieurs sortes, notamment l'ARN messager, c'est quoi ce machin ? Et c'est quoi un vaccin ?
Alors c'est quoi un vaccin ? Un vaccin, c'est on va vous donner une partie. Je vais parler du vaccin contre les virus, pour être simple. Donc, soit on va vous injecter une partie du virus ou bien le virus entier, en l'atténuant pour pas qu'il soit quand même dangereux pour vous. Alors, pourquoi on va vous donner ça ? Pour que votre corps, votre organisme, s'habitue à ces protéines de virus ou au virus lui-même et fabrique une immunité. D'accord ? Et donc, on va le donner en une quantité très faible pour que vous ne soyez pas malade. D'accord ? Et juste que vous soyez juste assez réactif pour produire des anticorps. Donc ce sont ces molécules qui permettent d'attaquer le virus. Et également pour produire des cellules tueuses ou des lymphocytes T qui permettent de détruire les cellules infectées. Alors pourquoi on donne un vaccin ? Donc quand votre organisme est préparé, il garde une mémoire. C'est-à-dire que dès qu'il va rencontrer le virus en question, il va dire à ces cellules, je les appelle les cellules ninja. C'est comme ça que j'explique à mes enfants. Vous savez, les ninjas, il y a les ninjas, ils balancent des choses comme ça, comme des petites. Donc on peut imaginer que notre organisme a des sortes de cellules ninja et que dès qu'ils rencontrent les virus, parce qu'ils le reconnaissent, ils vont lui balancer des petites. ça s'appelle des anticorps, donc ils vont attaquer le virus. Et en même temps, les cellules ninja, ils vont attaquer les cellules parce qu'il y a des cellules qui vont commencer à être infectées. Ils vont vite être détruites pour ne pas propager le virus. Donc c'est ça. L'objectif d'un vaccin, c'est de vous entraîner, d'entraîner votre corps à se défendre très rapidement et à ne pas tomber malade.
Et l'ARN messager, ça a l'air tout neuf, ça, mais personne, la population moyenne, dont moi, ne comprend rien. C'est quoi ?
Oui, alors, dans les vaccins, il y a plusieurs types. Il y a le vaccin traditionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre un virus, le virus en question, on va l'atténuer ou l'inactiver pour pas qu'il soit pathogène. Et puis, donc, il y a celui-là. Pour ça, il n'est pas assez efficace pour vous entraîner, pour vous défendre. Donc, il faut à chaque fois lui rajouter un adjuvant. Un adjuvant, c'est une autre molécule. Ça peut être l'alun, c'est à base d'aluminium, donc qui va réactiver votre immunité. Et donc, ça, ce sont les vaccins traditionnels. Et puis, il y a des vaccins un peu plus innovants. Donc, ceux qui sont à base... de protéines, comme celui, le vaccin de l'hépatite B, qui sont très efficaces. Les vaccins à base, ce qu'on appelle d'adénovirus. Alors, adénovirus, c'est quoi ? C'est encore un virus, mais qui est très gentil. Je crois que pratiquement tout le monde a été infecté au moins avec un adénovirus, soit en faisant une conjonctivite, soit une gastro-entérite, etc. Sauf que ces adénovirus, on va les vider. On va les rendre pas infectieux du tout. Il va leur mettre à l'intérieur le matériel pour qu'ils produisent la protéine spike du virus. Alors, c'est quoi la protéine spike du Covid ? Là, je parle que du Covid. Ce sont des picots qui sont à l'extérieur du virus. Et ces picots-là, c'est eux qui sont reconnus par notre réponse immunitaire. Donc forcément, c'est cette protéine qui forme ces picots qu'on va mettre dans le vaccin. D'accord. Et donc cet adénovirus, ensuite on va vous l'injecter, c'est le principe des vaccins comme AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Donc c'est un virus gentil dans lequel on a mis un peu de protéine S et on vous l'injecte et après il va infecter vos cellules. Votre cellule c'est comme une machine, comme une usine, elle va faire produire ce virus, en même temps la protéine du Covid et votre corps il va être entraîné. Alors, on arrive maintenant au vaccin ARN messager, c'est quoi ? Un vaccin ARN messager, en fait, c'est vraiment très novateur. Ils ont pris le matériel génétique qui correspond toujours à cette protéine spike, à ce picot autour de la cellule. Sauf que le matériel génétique, cet ARN, c'est une molécule qui est très fragile. On ne peut pas la laisser comme ça sur un support. Il faut qu'elle soit protégée. Donc, ils ont mis une sorte de véhicule, et qui permet de la transporter jusqu'à la cellule sans que ça soit détruit. Alors, il va tranquillement jusqu'à notre cellule. Et après, notre cellule, elle le reconnaît comme si c'était un ARN d'un virus qui arrive. Et que donc ça va utiliser la machinerie de notre cellule. Cet ARN se transforme en protéine spike et puis voilà, il est reconnu par notre organisme et notre organisme va produire des anticorps. L'intérêt de ce vaccin, c'est qu'on n'a pas besoin d'adjuvant. Il n'y a ni aluminium ni rien du tout. On met juste cette petite molécule d'ARN. Alors il y en a qui ont dit mais on va m'injecter de l'ARN. Mais on va injecter des OGM. En fait, pas du tout. Il faut savoir que quand vous êtes infecté par le Covid lui-même, vous avez des milliards de cet ARN. Parce que le virus, quand il rentre dans la cellule, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, c'est d'aller dans votre cellule et produire des milliards de protéines S et de virus. Et là, on vous met une petite quantité pour entraîner votre organisme, pour que vous sachiez répondre quand il est temps, quand vous rencontrez le vrai virus.
J'imagine que les vaccins, comme tout médicament, il y a d'une part, c'est pas 100% de réussite, et par ailleurs, il y a des effets secondaires, genre on peut mourir d'une thrombose, non ?
Alors, est-ce qu'on peut mourir d'une thrombose ? Oui, on peut mourir d'une thrombose. Alors, effectivement, le vaccin, c'est un médicament. Donc forcément, il peut y avoir des effets secondaires. Alors, quand on regarde, en fait, ces vaccins, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quand même donnés à pratiquement à un nombre de personnes extrêmement important. Donc, plus vous multipliez plus de personnes ont ce médicament, donc plus on va avoir des exceptions, des personnes qui vont réagir, un petit nombre de personnes qui vont réagir différemment à la majorité des personnes. Parce qu'il y a d'autres médicaments qui peuvent donner des effets secondaires, mais sauf que la population entière ne prend pas ces médicaments. Là, c'est l'inverse. Le vaccin anti-Covid, tout le monde le prend. Donc forcément, il y a des exceptions, parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Chaque individu a sa génétique, a sa réponse immunitaire, et il peut y avoir parfois, chez certaines personnes, une réaction très exagérée vis-à-vis du virus. Maintenant, ces thromboses, c'est vrai qu'on l'a observé avec des vaccins principalement à base d'adénovirus, qui sont AstraZeneca et Johnson & Johnson. Là, il y a plusieurs études qui sont en train d'explorer pourquoi on observe ces thromboses particulièrement avec ces vaccins. Même, ils sont très rares, mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir. Mais il faut savoir aussi que quand on regarde de manière générale, le pourcentage de personnes qui ont eu ce médicament, donc ce vaccin, eh bien, le pourcentage d'effets secondaires est extrêmement faible et le rapport bénéfice-risque est vraiment très très bon.
Alors, on a aussi beaucoup parlé d'immunité collective, hein, que certains pays ont testé, genre on fait rien et l'immunité collective s'installe à partir de X% de la population infectée. Pareil pour le vaccin, hein, on dit que, alors je ne sais pas si c'est vrai, que quand 70% de la population est vaccinée, pouf, c'est magique, le virus disparaît. Enfin, c'est quoi cette immunité collective ?
Alors, c'est quoi l'immunité collective ? C'est quand une bonne partie de la population est immunisée, c'est-à-dire est capable de se défendre contre le virus tout de suite et ne pas avoir être porteuse du virus, donc ne le transmet pas. Et donc, le virus, il est face à il est bloqué. S'il ne peut pas se multiplier et s'il ne peut pas se transmettre, ben, ça va s'arrêter de lui-même. Donc, plus on a de personnes qui sont incapables de faire multiplier le virus parce qu'elles ont une réponse immunitaire importante, eh ben le virus il va reculer petit à petit. Alors, à un moment donné, on se disait que ça serait bien si plusieurs personnes sont infectées, on pourrait atteindre l'immunité collective juste avec l'infection. Le problème, c'est que si on attend que toutes les personnes soient infectées, d'abord, on aura énormément de morts. C'est ce qui s'est observé dans certains pays. Vous voyez le Brésil. Mais sachant qu'on a la chance d'avoir le vaccin en très peu de temps. Donc, le vaccin, actuellement, si on arrive à vacciner, comme vous avez dit, 70% de la population, mais 70% de la population totale, pas que les adultes, total. Là, effectivement, on va ralentir la transmission du virus. Celui-là, il ne va pas, s'il ne se multiplie pas, il ne va pas muter. Donc, on n'aura pas de variants qui vont résister au vaccin. Et petit à petit, ce virus-là va devenir moins pathogène. Il ne va pas disparaître. C'est un virus qui peut-être, si on est tous immunisés de manière correcte, ou la majorité, il deviendra comme ses cousins, coronavirus, qui ne sont pas pathogènes, vous savez, il y en a 4, et qui sont responsables de rhume. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste qu'il faut vraiment, c'est surtout les personnes adultes, mais malheureusement, on n'arrivera pas, parce que tout le monde ne veut pas se faire vacciner, il faut qu'il y ait une majorité de personnes. Donc, on dit soit 70% de la population entière, soit 90% des adultes. Et donc, si vous avez entendu, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudra probablement penser à vacciner les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera pas à atteindre 90% des adultes d'ici l'été. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ?
On était sur l'immunité collective.
Oui. Donc, on pourrait l'avoir de manière... Parce que l'objectif, c'est de l'avoir rapidement pour qu'on puisse retourner à une vie normale. Cette immunité collective. Et on peut l'avoir qu'avec le vaccin, de manière rapide, associé à l'immunité naturelle, ceux qui sont déjà infectés.
Et vous évoquez le nombre de morts. En ne faisant rien, en jouant donc cette carte d'immunité collective avec l'infection qui toucherait tout le monde, est-ce qu'on a une estimation du nombre de morts que ça générerait sur un pays ou sur la planète ?
Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre de morts ? Je l'avais, cette idée. Parce que quelqu'un l'avait évalué, mais je ne me souviens plus. En tout cas, on peut dire que c'était un nombre qui était insoutenable, qu'on ne peut pas accepter. Il y avait énormément de morts. Et ce n'est pas forcément, pas que des gens de 90 ans, on va dire, ben ceux-là, de toute façon, ils sont proches. Mais vraiment, dès 50 ans, il pouvait y avoir énormément de morts. Malheureusement, je ne me souviens plus du chiffre. Mais c'était insoutenable. De toute façon, que par personne, hein, vous dites à quelqu'un, ben, y a un risque que votre père meurt à l'âge de 50 ans. Enfin, ben, c'est insoutenable. Donc, la seule solution, c'est ça, malheureusement, c'est se faire vacciner.
Mais si on raisonne en termes de maladies à l'échelle de la planète, il n'y a pas y a des maladies beaucoup plus dangereuses qu'on pourrait soigner et sauver des millions de vies. Je ne sais pas, en Afrique, est-ce que la diarrhée, la rougeole ou la grippe toute simple, ça ne tue pas beaucoup plus que le Covid, par exemple?
Alors, c'est vrai que cette question se pose souvent. Est-ce qu'on s'intéresse tellement à une maladie qui, parfois, elle est asymptomatique, qu'on oublie les autres? En fait, ce qu'il faut savoir, déjà, pour les autres maladies, il y a des choses qui sont faites. Il y a les vaccins, pour la rougeole, par exemple. Il y a la grippe. Donc, il y a déjà des médicaments. Donc, c'est vrai que, si on parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle fait déjà tout pour pouvoir éliminer ces maladies. Surtout dans des pays comme l'Afrique, par exemple, même la rougeole en Europe, les gens ne se vaccinent plus. En fait, la problématique du Covid, c'est que c'est un virus qu'aucun organisme n'était préparé pour le contrer auparavant. Et c'est pour ça, en fait, d'abord, il est très contagieux et qu'aucun n'est immunisé contre ce virus. Et le fait qu'il infecte un tel nombre de personnes, et parfois, ça peut être très grave et ça nécessite une hospitalisation. Vous avez vu, ça nécessite une hospitalisation. Si on avait des hôpitaux, mais c'est impossible, hein, si on avait des hôpitaux qui pouvaient contenir des milliers de patients en même temps, on pourrait se permettre de dire, ah ben, on va attendre l'immunité collective naturelle. En fait, non, vous voyez que dans n'importe quel pays, les États-Unis qui sont quand même très développés, qui ont les moyens, l'Allemagne et tout ça, ce virus est tellement contagieux, il peut atteindre tellement un nombre de personnes importantes et entraîner des maladies que ça va saturer les hôpitaux extrêmement rapidement. Et les personnes, vous avez vu en Inde, les personnes meurent, non pas parce que ils ont des maladies très graves, comme on a vu en réanimation chez nous. Mais c'est juste qu'ils n'avaient pas assez d'oxygène, ou même des soins basiques. Et donc c'est ça, c'est la problématique de la saturation des systèmes de soins qui peut être extrêmement rapidement, même dans des pays développés comme les nôtres, qui fait que ça serait une aberration d'attendre que tout le monde s'infecte de manière naturelle.
Ça me fait penser que le premier ministre de l'Inde, Modi, a interdit l'utilisation du mot variant indien. Est-ce que vous allez suivre cette interdiction?
On la suit déjà. Et il est vrai, je suis entièrement d'accord, parce qu'en fait, on dit variant indien, on dit variant anglais. En fait, c'est juste un variant qui a été détecté ou médiatisé pour la première fois chez un patient qui habite dans certaines régions. Mais en fait, ces variants, on peut les retrouver un peu partout. Et c'est pour ça, c'est stigmatiser un pays de dire variant sud-africain ou variant indien. Et c'est pour ça que maintenant, on donne une dénomination spécifique, un peu difficile, il est vrai, mais on dit B1.1. Bon, ben, après, maintenant... Et encore, franchement, je dis maintenant, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour la population de connaître chaque variant spécifiquement et surveiller? Non. L'essentiel, c'est de dire qu'il y a un Covid, il y a plusieurs variants, mais il y a un Covid dont il faut se prémunir et se protéger. C'est un virus. Laissez les variants pour les épidémiologistes et pour les fabricants de vaccins, pour pouvoir un peu trouver. Mais franchement, moi, je trouve que c'est se casser la tête et être encore plus anxieux tous les jours. Ah, il y a un autre variant. Mais en fait, il y en aura tout le temps.
Et donc, les vaccins actuels servent aussi contre les variants? Ou bien il faut à chaque fois en inventer des nouveaux si on veut être efficace contre ces variants dont on ne va pas donner l'origine géographique pour ne pas faire de discrimination?
La très bonne nouvelle, et l'OMS l'a confirmé, c'est que les vaccins actuels sont capables, sont efficaces contre les différents variants. Et il faut dire aussi que quand vous êtes vacciné, notre organisme, il est fait de manière que votre immunité, en fait, c'est pas figé. Quand vous êtes infecté, vous avez des anticorps, mais vos anticorps, ils restent pas comme ça, à attendre. Et on a, c'est extraordinaire, notre organisme, il fait maturer ses anticorps. Il va sélectionner les meilleurs. Et il garde en mémoire les meilleurs qui vont pouvoir attaquer le virus de différents côtés. Et c'est ça qui fait que le vaccin, il est efficace contre différents variants. Même si le virus mute, eh bien, il est capable quand même d'être efficace contre ces variants.
Alors, est-ce que c'est vrai que l'immunité anti-Covid durerait plus longtemps chez les femmes, ce qui prouverait leur supériorité par rapport aux hommes d'ailleurs?
Alors, est-ce que les femmes sont supérieures aux hommes? Je dirais que oui, en tant que femme. Non. Ce qui est démontré, c'est que la réponse immunitaire de la femme, elle est plus sophistiquée, si on peut dire ça comme ça, que chez l'homme. Pour au moins pour deux raisons, pour même pour trois. La première, c'est lié à nos chromosomes. Vous savez, la femme, elle a deux chromosomes X. L'homme, on n'a qu'un seul. Alors, pourquoi on parle de chromosome X? C'est celui qui porte l'information génétique chez nous. Un chromosome X, c'est celui qui va coder pour la majorité des gènes responsables de la réponse immunitaire. On va tous pratiquement les retrouver dans ce chromosome X. Et comme, donc, en général, nous, les femmes, on a deux chromosomes X, mais un qui est censé être inactivé. Il attend. Sauf que maintenant, avec la science, on sait que 15 à 30% des gènes qui sont portés par le deuxième chromosome X, ils sont quand même actifs. Et c'est ce qui fait qu'on a une réponse immunitaire plus développée que chez l'homme. Et d'ailleurs, ça a un côté négatif parce que la femme a plus de risques d'avoir des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que quand votre corps s'attaque contre lui-même. Mais quand on revient au Covid, effectivement, les hommes sont plus exposés. Il y a plus d'hommes qui vont en réanimation que les femmes. Les femmes ont une réponse anticorps qui va baisser moins rapidement que chez les hommes. Ils ont une réponse cellulaire, vous savez, cellule ninja, qui est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Et puis, il y a nos hormones aussi. L'œstrogène, c'est une hormone qui active mieux la réponse immunitaire, surtout celle qui est immédiate, dès que vous êtes infecté. Et c'est un peu de l'abaisser. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que la réponse immunitaire est mieux chez la femme.
Oui, juste une petite précision, c'est quoi une hormone?
Alors, une hormone, qu'est-ce qu'une hormone? Très bonne question. En fait, c'est une molécule qui existe dans notre organisme et on a beaucoup des hormones et qui font c'est très difficile à dire, comme un messager qui peuvent activer certains récepteurs. Ils vont faciliter la communication entre des cellules. C'est vrai que c'est difficile de dire, d'expliquer une hormone facilement comme ça, de manière vulgarisée.
Donc la testostérone ou la dopamine?
Alors la dopamine, la testostérone, l'œstrogène, la progestérone, il y a vraiment beaucoup, ils jouent un rôle, les hormones jouent un rôle extrêmement important. C'est elles qui vont permettre d'équilibrer, qui participent à l'équilibre de notre organisme et tout ce qui se passe entre les différents organes dans notre corps, le cerveau, etc.
Et les enfants, on pourrait penser que comme ça, à peine infectés, ils vont mourir, poum, alors qu'en fait, non, pas du tout, quoi. Les enfants résistent beaucoup mieux au virus, pourquoi?
Alors pourquoi les enfants résistent mieux au virus? Il y a plusieurs choses. Vous savez, quand vous êtes infecté, vous avez ce qu'on appelle une réponse immunitaire innée, immédiate. Et se déclenche dans les heures qui suivent. Elle est surtout au niveau des voies respiratoires. On a découvert que chez les enfants, chez les jeunes d'ailleurs, et chez les femmes aussi, cette réponse immunitaire innée est très forte. C'est-à-dire qu'à peine le virus y rentre, il est tout de suite achevé, attaqué. Et donc c'est pour ça que les enfants, ils ont moins de symptômes et moins de maladies. Et en plus, il semblerait, ça c'est une étude récente qui vient de sortir, que les enfants, ils font beaucoup de rhumes, vous savez, quand ils sont à l'école, etc. Et ces rhumes, ils sont liés à certains coronavirus, vous savez, les gentils, là, les quatre gentils. Alors certains chercheurs disent qu'il y a peut-être une réponse croisée, qu'on observe chez les enfants surtout, qui permet aussi de les protéger contre le coronavirus. Et donc c'est pour ça que voilà, les enfants, ils font rien.
Y a-t-il un lien entre le coronavirus et la bière Corona ?
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre coronavirus et bière ? Oui, complètement. Non, pas du tout.
Mais coronavirus, pourquoi cette appellation, ça vient d'où quelqu'un, il s'appelait Corona, le type qui a découvert ce virus ?
Ah non, alors d'où vient le nom Corona ? C'est lié à la structure du virus. En fait, il a justement une enveloppe autour avec des petits picots, ça fait comme une couronne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle coronavirus, c'est juste, tout simplement ça.
Et donc si j'ai quelqu'un que je supporte plus et que j'ai envie de lui refiler le coronavirus, comment je fais ? Je mets dans une boîte et je lui offre comment ça ? Quelle possibilité j'ai ?
Alors si vous n'aimez pas quelqu'un, que vous voulez lui faire du mal, alors pour lui transmettre le virus, il y a un seul moyen, c'est d'abord l'attraper et être un peu malade. Tout début d'infection, et aller dans un endroit clos, complètement fermé, et discuter pendant longtemps avec votre ami. Vous pouvez même chanter ensemble, faire une chorale. Ça aussi, vous pouvez lui faire du mal.
Mais ici, à l'Institut de virologie de Strasbourg, alors j'imagine vous avez une magnifique collection de virus rangés dans des tiroirs. Comment vous conservez ça ? C'est physiquement, ça se présente comment ? C'est une cuisse de chauve-souris
Ah oui, alors un virus en général, si on veut le garder vivant, on le met, on le congèle, on le met à moins 80 ou à moins 150. Et alors le virus, le coronavirus en l'occurrence, lui c'est un virus dit de classe 3. Donc on ne peut pas le manipuler, le ranger dans un tiroir, même s'il est à moins 80. Il est dans un laboratoire qu'on appelle L3, laboratoire de niveau 3, où l'accès est extrêmement réglementé. Donc d'abord, ça a été validé par le ministère, d'accord ? Il y a régulièrement une agence, des inspecteurs qui viennent voir. Et il y a des badges. Vous pouvez pas, tout le monde ne peut pas aller. Donc il y a double entrée. Avec un badge, il y a une liste, il n'y a qu'une liste de personnes habilitées et formées pour entrer dans ce type de laboratoire qui ont le droit d'accéder. Et ensuite, je vous donne, mais de toute façon, vous ne pouvez pas y aller, je peux vous dire où s'en cacher. Et donc, ensuite, dans ce virus, il est caché dans un congélateur moins 20 qui est fermé avec un cadenas, avec un code que certaines personnes ont. Donc, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on fait avec tous les virus dangereux ou les bactéries dangereuses. Donc, c'est vraiment bien gardé et bien réglementé.
Et vous travaillez ici à Strasbourg avec l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine ?
Alors, est-ce qu'on travaille avec l'Institut de Wuhan en Chine ? Non. Non, on n'a pas eu cette chance encore. Non, actuellement, on travaille qu'avec des Européens pour le moment, voire des Américains, mais non, on n'a pas eu encore l'occasion de travailler avec des Chinois.
Bah, qui ont été accusés ou soupçonnés du moins d'être accidentellement à l'origine de la naissance de cette pandémie mondiale. Est-ce que, quelles sont les hypothèses ? C'est une hypothèse possible ?
Alors j'avoue, c'est mon avis personnel, l'hypothèse de l'arrivée du virus. Il y en a qui parlent de laboratoire, d'accident de laboratoire. Alors j'ai du mal à y croire, sachant que le laboratoire à Wuhan, c'est un laboratoire P4 apparemment. P4, ça n'a strictement rien à voir avec le P3 que nous avons. Le P4, c'est comme celui qui est à Lyon. C'est encore le niveau de sécurité, il est extrêmement élevé. Donc, il faut déjà savoir que, par exemple, dans notre P3, les déchets, ils ne sortent pas comme ça. Ils sont autoclavés, incinérés avant de sortir. Rien, vous mettez des combinaisons, des masques, et tout ça est détruit avant que vous sortiez. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal. Comment ils ont pu avoir un accident de laboratoire en sortant un virus comme ça? Franchement, j'ai du mal à y croire. Ce que je sais par contre, c'est que en Asie, il y a beaucoup de chauves-souris dans les grottes notamment, et je crois que là-bas aussi bien les spéléologues que la population normale qui consomme la chauve-souris peuvent avoir un contact avec les chauves-souris, et on sait que les chauves-souris, le type Rhinolophus qui est en Asie, c'est un porteur de coronavirus, un grand nombre de coronavirus. Et on peut imaginer qu'il y a eu un contact peut-être avec des chercheurs ou avec des consommateurs et qu'après ça a disséminé petit à petit. Mais voilà, c'est mon hypothèse.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette pandémie et ce virus soient une espèce de vengeance de la nature qui veut retrouver ses droits et qui veut réguler peut-être cet être néfaste qu'est l'être humain pour pouvoir vivre sa vie en tant que nature et pas être détruite par l'être humain?
Alors, est-ce que c'est une vengeance de la nature? C'est un peu beaucoup puis dire que l'homme est néfaste, je suis pas certaine. On est quand même, bon, on fait des choses pas bien, mais on fait des choses aussi bien. Non, je dirais que je pense c'est vrai, c'est des accidents qui forcément ils arrivent au fur et à mesure que l'homme va en contact avec des animaux qu'il a jamais vu auparavant, et ces animaux, peut-être qu'à force d'être en contact, notre corps il va aussi s'habituer à ces nouveaux virus. De toute façon, c'est comme ça l'évolution. Malheureusement, c'est accéléré à cause du changement climatique et de la destruction des habitats de ces animaux. Ce qu'il faut dire, c'est que si on imagine que la nature se venge comme ça, elle n'a pas fini de se venger, parce que, à mon avis, d'autres virus émergents, on en aura encore. Parce qu'on en a eu pas mal, hein. Il y a eu Ebola, Zika, tout cela, on l'a oublié parce qu'ils étaient cantonnés à certaines régions du monde. Mais pratiquement tous les 2-3 ans, on a des virus qui émergent.
Alors grâce au Covid, tous les Français et les Françaises se retrouvent en terrasse aujourd'hui. C'est magnifique, on n'a jamais vu autant de monde sur les terrasses. Est-ce que le Covid, c'est aussi un bonus merveilleux pour les instituts de virologie et les recherches que vous menez? Est-ce que votre budget a été multiplié depuis que ce virus est arrivé? Est-ce que vous avez plein d'aides nouvelles pour participer à l'effort? Quelque part, j'imagine, ça vous fait plaisir, ce Covid?
Alors là, vous dites la question qui fâche. Alors certes, le Covid, je ne dirais pas un bonus, mais en tout cas, c'est vrai que c'était quelque chose qui a fait connaître la discipline de virologie. Malheureusement, malgré tous les efforts que tout le monde a fait, vraiment, je dirais, c'était un dévouement sans... j'ai jamais vu ça de tout le monde. On a demandé... Chacun s'est senti responsable et qu'il devait agir. Eh bien, on nous annonce qu'on va nous réduire nos personnels, si vous voulez, et qu'au contraire, le budget va être encore réduit. Donc non, malheureusement, ça aurait été vraiment... On aurait bien aimé que ça soit un signal pour augmenter les budgets de la recherche et de l'hôpital, et c'est juste l'inverse qui se produit.
Étonnant, j'aurais jamais pensé. C'est l'État qui finance là, c'est l'Institut de virologie et les hôpitaux de Strasbourg.
Alors, la recherche, c'est pas que l'État, parce que autrement c'est pas possible. Donc en fait, il y a effectivement l'État. On a un peu de budget, mais il faut à chaque fois les chercheurs. Ça fait partie, malheureusement aussi, c'est la partie pas bonne ou difficile, c'est d'aller chercher l'argent ailleurs et de postuler pour avoir ce qu'on appelle des grants ou des financements un peu de partout, pour pouvoir continuer la recherche. Mais si vous voulez, le budget fixe qui nous est donné par l'État, il est extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible. Donc voilà, notre objectif toute l'année, c'est de chercher de l'argent pour continuer à faire de la recherche.
Alors, vous passez vos journées à faire des dossiers de subventions pour avoir des sous pour sauver le monde, c'est ça ?
Alors, pour sauver le monde, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est vrai, on passe beaucoup de temps à écrire des projets et à écrire. Et aussi, il faut avoir des articles pour que votre projet soit accepté. Parce que si vous n'avez pas d'article publié, vous n'êtes pas reconnu. Et donc, forcément, tous vos projets sont recalés. Donc, c'est vrai qu'on est dans une course permanente après les budgets, garder nos chercheurs, publier, etc. Et ça, je dirais, c'est la partie un peu moins amusante de la recherche.
Et sinon, en imaginant l'avenir, est-ce qu'il serait assez logique d'avoir plein de nouveaux virus qui font plein de morts de tous les côtés dans les années qui viennent à la suite?
Est-ce qu'il y aura plein de virus avec plein de morts? J'espère que non. Mais je pense qu'il risque d'y avoir régulièrement des virus qui émergent, plus ou moins dangereux. Maintenant, il y a des chercheurs qui ont essayé de faire des modélisations pour anticiper. Et malheureusement, c'est impossible. Donc là, il faut juste être vigilant et apprendre de ce qui s'est passé actuellement pour mieux réagir contre les pandémies.
Alors, mais ce virus, concrètement, quand il rentre, pénètre votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Et surtout, qu'est-ce que le goût et l'odorat viennent faire là-dedans? Comment ça se passe pour qu'on en arrive à ne plus rien sentir, à ne plus rien ressentir au niveau du goût?
Alors, que va faire le virus? Alors, effectivement, il rentre par les voies respiratoires. Vous vous souvenez, il rentre par le nez. Et après, alors, on pense que soit il va infecter vos muqueuses nasales. Donc, il y a une inflammation. Et c'est là où vous pouvez avoir une perte d'odorat. D'accord. Mais quand c'est juste une atteinte de la muqueuse nasale, ça va. C'est une perte d'odorat après, vous allez reprendre rapidement votre odorat. En revanche, le virus, il peut atteindre ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Donc, il va atteindre les nerfs. Et donc, c'est là où, quand il atteint le bulbe olfactif, il peut y avoir une perte d'odorat et de goût. Et c'est là où ça peut durer longtemps, le temps que vos nerfs se régénèrent. Parce qu'on pense qu'il se multiplie et du coup il y a une destruction ou une inflammation et qui fait que vous perdez. Et certains, malheureusement, ils perdent l'odorat pendant un an, ils ne récupèrent pas. Donc on pense que c'est probablement à cause de ça.
Et peut-être pour terminer, un message pour nos enfants qui depuis 2 ans mangent des masques et n'ont pas le droit de sortir et sont obligés de tout vivre à travers des écrans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils retrouvent un peu le sourire et que ça ne devienne pas le quotidien des 20 années qui arrivent, cette pandémie dont on est obligé de se protéger?
C'est vrai, la problématique, c'est avec les enfants qui étaient confinés du jour au lendemain. Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est bientôt fini. Et c'est pour ça, peut-être, que par rapport à... Je reviens à la vaccination des enfants. Si on les vaccine, je pense que c'est aussi pour qu'ils puissent enlever ce masque assez rapidement. Parce que le vaccin est efficace chez eux à 100%. Et alors, ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est que vous avez eu de la chance, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire qu'on vit une fois dans sa vie. Et c'est vrai c'est quand même, on a vécu quelque chose même difficile, mais quand même qu'on a partagé avec le monde entier. Jamais il y a eu une telle solidarité entre le monde entier. Il faut voir aussi de temps en temps le verre à moitié plein. Et puis, il faut dire que moi, quand je discute avec mes enfants, ils ont presque pris l'habitude avec le confinement, qu'ils trouvent ça génial. Donc là, maintenant, il faut les éduquer, il faut leur dire, il y a le sport, il faut travailler plus régulièrement. Et puis, je pense, vous savez, autant nous, les adultes, peut-être qu'on aura des problèmes à revenir vers la vie normale, autant les enfants, du jour au lendemain, ils peuvent... très vite revenir à ce qu'ils aiment faire, etc.